Bonsoir à toutes et à tous. Un reconfinement en plein air. 21 millions de Français vont subir 4 semaines de confinement, 7 jours sur 7, avec attestation de déplacement. Mais un confinement qu'on pourra passer dehors toute la journée. Alors, pour quelle efficacité? Pourquoi un tel choix? Sera-t-il suffisant pour étouffer cette troisième vague qui sature les réanimations? Ce confinement d'un troisième type pourrait-il être étendu d'abord dans le temps, mais aussi géographiquement? Et puis surtout, est-ce bien le dernier confinement? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Reconfiné et en même temps dehors ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Gilbert Deray. Vous êtes chef de service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Je signale votre dernier édito. Emmanuel Macron, le décideur solitaire. En duplex, on retrouve le professeur Daniel Lévy-Brulle. Vous êtes responsable de l'unité des infections respiratoires et vaccinations de Santé publique France. Et enfin, Soizic Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique à Marianne. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en plein air. Alors tout d'abord, Cécile Cornudet, on a failli intituler cette émission « Étrange confinement ». C'est vrai qu'on est là, un confinement d'un troisième type. Je cite Jean Castex hier, « freiner sans enfermer ». S'aérer, dit-il, se promener, faire du sport. En fait, c'est un confinement dehors, un confinement de plein air.
Et normalement, on n'a pas le droit de dire confinement. Emmanuel Macron a dit qu'on ne pouvait pas vraiment appeler ça un confinement. Ce n'est pas très facile à lire, forcément, pour tous les gens. Je ne sais pas si tout le monde a très bien compris hier. J'ai l'impression que on l'a compris en deux temps. Ce nouveau confinement. D'abord, ça a été un peu un coup sur la tête, notamment pour les commerçants qui ne s'attendaient pas du tout à ça. On s'attendait tous à un confinement le week-end. Mais les dernières consultations qu'a eu Emmanuel Macron avec des réanimateurs, ils lui ont dit, si on ne fait pas des mesures plus fortes que ça, on va arriver vers un tri de personnes de 40-50 ans. Donc, il faut vraiment prendre des mesures dures. Donc, retour des attestations, interdiction de déplacements interrégionaux, on a eu l'impression de revenir en arrière. Et ce matin, beaucoup de gens se sont réveillés en regardant un peu précisément ce qu'il en était. Et en fait, on se dit, oui, mais on peut... Il y a certes une attestation, mais on peut sortir toute la journée dehors. À 10 km.
Le couvre-feu est repoussé de 18 à 19 heures.
Voilà, d'une heure. Donc, en fait... Tout dépendra sur l'utilité, vous parliez d'utilité, de la façon dont les gens finalement le mettront en œuvre. Est-ce que les gens ont compris qu'on pouvait aller dehors? Mais est-ce qu'ils ont compris qu'en réalité, il fallait arrêter d'inviter des copains à dîner ou à déjeuner le samedi et dimanche parce que c'est là qu'on se contaminait? Ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'ont vraiment compris les gens? Sauf que peut-être, il faut faire quand même un petit peu attention parce que la situation n'est pas bonne.
C'est vrai qu'on n'a pas tout compris. Soizic Kemener, est-ce qu'on a... Moi, personnellement, je n'ai pas compris comment va marcher l'attestation de sortie. Comment ça se passe? Le matin, on va se signer son attestation qui sera valable toute la journée, le soir jusqu'à 19h. Et tous les matins, il va falloir se la signer soi-même et ce, pendant 4 semaines.
Alors, on n'a pas encore absolument tous les détails. Gérald Darmanin l'a dit tout à l'heure. Il va donner des nouvelles précisions au fur et à mesure du temps. C'est un peu comme pour les commerces. On a appris ce matin, finalement, les coiffeurs allaient rester ouverts et peut-être les fleuristes. Enfin, on attend encore les informations de Bercy. Donc, en tout cas, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il va y avoir une attestation. On duplique, sans doute, de ce qu'on comprend, de ce que dit Jean Castex, le modèle des précédents confinements, c'est-à-dire si on peut avoir une attestation de l'employeur, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'une attestation supplémentaire. Les enfants, pour aller à l'école, n'ont pas besoin d'une attestation, mais en revanche, pour tout le reste, c'est-à-dire les courses du quotidien, le jogging dans le parc, les déplacements pour prendre l'air, puisque c'est un confinement dehors, à ce moment-là, il faudra une attestation. Mais c'est vrai que Cécile Cornudet le rappelait tout à l'heure, quand Emmanuel Macron a vu des journalistes aujourd'hui, il les voyait pour tout à fait autre chose, pour le sommet de la francophonie. Il est venu, ils lui ont posé la question de ce mot confinement, puisqu'il était question des mots de la francophonie. Donc il disait les mots qu'il aimait, les mots qu'il n'aimait pas. Et une journaliste lui a demandé, mais vous n'aimez pas le mot confinement? Et il dit, mais non, c'est pas du tout un confinement. Et on voit bien qu'il a cherché à trouver une solution hybride, à la fois sanitaire, donc ça ressemble vraiment à un confinement, mais en même temps politique. Et aussi, il est question d'acceptation sociale, bien entendu, de la fameuse acceptabilité. Donc il a essayé de trouver une voie médiane qui n'est pas évidente à comprendre, mais finalement... C'est vrai qu'il y a cet effet, ce deuxième effet, où on se dit, mais finalement, le couvre-feu n'est plus à 18h, il va passer à 19h, donc un peu plus de liberté. et aussi cette possibilité finalement beaucoup plus étendue que celle que ne l'avaient encore jusqu'au week-end dernier les habitants des Alpes-Maritimes ou bien de Dunkerque, par exemple, ou du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire cette possibilité de se déplacer plus longtemps à l'extérieur, notamment le week-end. Donc il a essayé de trouver voilà, une voie médiane, et pour ce qui est des attestations, c'est une façon aussi de dire « attention ». Nous sommes tout de même dans un moment de resserrement de l'épidémie, de resserrement des contraintes. On essaie de freiner et il faut que à l'esprit, ceux qui sont dehors, qui vont rencontrer d'autres personnes, aient cet impératif à l'esprit. Les gestes barrières, quelque part, l'attestation, c'est un peu un geste barrière.
Voilà. Mais c'est vrai que pour revenir sur le mot confinement, ça veut dire enfermé à l'intérieur, et donc là, enfermé dehors. Ça paraît un peu un contresens. Daniel Lévy-Brulle, pourquoi veut-on nous mettre dehors? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'il est maintenant établi qu'on ne se contamine pas dehors? Et dès lors, bah, ça paraît du bon sens que de dire aux gens « allez dehors, puisque dehors, on ne se contamine pas ». Est-ce que c'est l'un des ressorts aussi de ce confinement? Enfin, on ne peut plus dire confinement, je ne sais pas comment dire, de ces mesures d'un troisième type?
Oui, tout à fait. Alors, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on ne peut pas se contaminer dehors. Mais on se contamine beaucoup moins dehors que dans un air confiné, que dans un espace clos, d'autant plus s'il est mal ventilé. Bien entendu, dehors, on peut se contaminer si on ne respecte pas les gestes barrières. Donc il ne faut pas penser qu'à partir du moment où on est dehors, on peut tomber le masque, on peut ne pas respecter la distanciation physique. Mais il est vrai, et beaucoup d'études maintenant le montrent, y compris des études menées en France, que le risque de transmission est bien moindre à distance équivalente lorsqu'on se trouve à l'extérieur, avec donc un air, avec des virus qui se diluent. On le comprend facilement, hein, si vous êtes porteur de virus et que vous êtes dehors, eh bien, si vous excrétez du virus, ça va se diluer dans l'air ambiant, alors que si vous êtes dans une petite chambre, eh bien, le virus, il va pas pouvoir s'échapper, il va rester dans la pièce, il va être beaucoup plus susceptible d'être transmis à des personnes qui seraient présentes dans la même pièce. Donc oui, il y a un rationnel à dire que il vaut mieux être dehors que dedans, mais dehors, il faut quand même continuer à respecter les mesures barrières, et en particulier le port du masque et la distanciation physique.
Alors Gilbert Deray, on prend ces mesures, et Emmanuel Macron les a prises, Cécile Cornudet le rappelait, après notamment sa visite à l'hôpital de Poissy, où il a vu que la marée montait en service de réanimation. Ils ne sont pas bons, les chiffres en réanimation. Est-ce qu'il était urgent d'agir, et quel regard portez-vous justement sur ces mesures ?
Alors, on appelle ça une troisième voie. Donc, par définition, quand vous êtes dans une troisième voie, c'est-à-dire que vous entrez dans une voie que vous ne connaissez pas. Vous ne voulez pas la première, vous ne voulez pas la deuxième, vous ne voulez pas, parce que ça vient de là, hein, vous ne voulez pas du capitalisme ou du socialisme, vous inventez quelque chose. Donc nous inventons quelque chose. Mais attention, quand on invente quelque chose, c'est à l'arrivée qu'on sait si cette troisième voie était la bonne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les dernières mesures, pour moi, sont illisibles, totalement illisibles. Je ne sais pas exactement ce que j'ai en moins, ce que j'ai en plus. J'ai même l'impression qu'en Île-de-France, je vais être plus libre que dans une zone où j'ai couvre-feu à 18h et confiné le week-end. Moi, j'ai plus de liberté ici, hein, avec ce qu'on vient d'annoncer. Je vais me promener tout le temps dehors. La troisième chose, c'est que c'est trop tard, trop peu. Clairement, trop tard. On n'attend pas que les réanimations soient au bout du désastre, car on y est, hein, au bout du gouffre, hein, pour prendre des mesures. Ces mesures, elles ne vont pas agir avant, au mieux, 2 à 3 semaines, rajoutez encore 1 ou 2 semaines pour qu'on voit quelque chose dans les réanimations. Donc, de toute façon, le mur, on est dedans, on n'est pas avant, hein, on est dedans. Et donc, finalement, si vous voulez, je m'interroge, parce que sur le plan purement sanitaire, je ne les comprends pas, moi, ces décisions. Donc, pour une raison simple, si on avait voulu contrôler l'épidémie, c'était en décembre dernier. C'était en janvier dernier qu'il fallait agir. On n'a pas voulu. Et on a accepté, depuis maintenant 6 mois, un plateau très élevé de contamination. Il faut arrêter de penser que c'est que la réa le problème, parce que sinon ça se termine parfait délit de réa. C'est pas la réa le problème, c'est pas que le problème. La réanimation, c'est un symptôme, les nombres de personnes. Et c'est un symptôme tardif. Et quand vous prenez une décision médicale sur un symptôme tardif, vous avez perdu. Et bien depuis 6 mois, on a accepté entre 20 et 30 000 contaminations, des dizaines de milliers de Covid longues, des séquelles à vie pour plein de patients. C'est trop tard.
On est à 1166 patients en réanimation en Île-de-France. Ouais. Est-ce que vous craignez que la marée ne continue de monter? Et à partir de quand, dites-vous, nous serons submergés? Alors, et on devra faire du tri en disant, bah, écoutez, il n'y a plus de place pour vous.
Ça peut arriver demain matin. Ça peut arriver demain matin. Souvenez-vous déjà qu'on déprogramme à fond. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un polytrauma. Enfin, quelqu'un, pas vous, évidemment, un polytrauma. On va chercher un lit. Hein. Il va se passer ce qu'on a connu l'année dernière, c'est-à-dire on va tourner. dans les hôpitaux pour trouver un lit aujourd'hui déjà. Et on déprogramme des patients de partout. On nous a demandé de déprogrammer 40% des patients. Ceux-là, il va falloir un jour qu'on les opère. Et donc, la réanimation est déjà au bord du désastre, si elle n'est déjà. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais rompre avec ça. Ça n'est pas qu'un problème de réanimation. Et c'est pour ça qu'il fallait faire avant. On n'attend pas que le système sanitaire soit en train de collapser pour agir. On prévient.
Et vous vous interrogez maintenant sur l'efficacité de ces mesures qui, de toute façon, n'auront un effet que dans 15 jours, puisqu'entre le moment où on se contamine et le moment où on va à l'hôpital, il y a un délai de 15 jours.
Vous savez, je refaisais encore un tour d'Europe là, de ce qui a été fait en Europe. Tout a été fait en Europe. C'est assez intéressant de faire ce tour d'Europe. On pourra essayer l'exercice si vous voulez. On sait ce qui marche, ça c'est sûr. Et on sait ce qui échoue. Ce qui marche, c'est on ferme le pays. Ça marche très très bien. Ça a été refait par le Portugal, par l'Italie, par une partie des pays nordiques. Et puis on déconfine progressivement. Ça marche très très bien ça. On sait ce qui est un désastre. Le Brésil, ne rien faire. Et nous, on est quelque part au milieu, nous. Mais ça ne marche pas. À partir du moment où vous acceptez, et je vais me répéter parce que c'est important, d'accord, 300 morts par jour, 25 000 contaminations par jour, des Covid longues pour les années à venir, plus l'angoisse des adultes, des enfants, les désordres psychologiques, ça fait 6 mois que ça dure. Et est-ce que ces mesures vont marcher? J'en doute fortement parce qu'elles n'ajoutent pas grand-chose. Je crains qu'elles ne marchent pas. Rendez-vous dans 3 semaines.
Alors, à partir de ce soir, minuit, donc un tiers des Français vont connaître un troisième confinement, un confinement nouvelle formule, on l'a dit, avec des sorties extérieures autorisées dans un rayon de 10 km, et ce, sans limite de temps. Mais comme pour les épisodes précédents, les commerces non essentiels, eux, vont devoir fermer leurs portes pour au moins 4 semaines. Sujet de Walid Berissoul, Juliette Vallon avec David Lemarchand.
Une fois de plus, les gares parisiennes se remplissent. Car l'heure de la rechute a bel et bien sonné. Et c'est reparti pour un mois. Près d'un Français sur trois va vivre son troisième confinement. Un terme que Jean Castex comme Olivier Véran ont pourtant essayé d'éviter soigneusement en annonçant hier soir les nouvelles mesures qui vont s'appliquer dans quelques heures.
C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer.
Je ne sais pas quel nom il faut donner à ces mesures fortes qui sont prises pour protéger les Français.
Pour l'Île-de-France, mais aussi les Hauts-de-France, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes, en tout pour 16 départements où vivent 21 millions de Français, c'est bien un confinement qui va s'appliquer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout déplacement à plus de 10 km est interdit et c'est le retour de l'attestation pour toute sortie du domicile. Mais confiné ne rime plus forcément avec enfermé. Le couvre-feu passe de 18 à 19 heures et le temps de sortie est illimité. Pour faire du sport, prendre l'air ou parfois même faire cours à des élèves dans un parc et recevoir la visite de la maire de Paris. Plutôt satisfaite de cette version, disons, aérée du confinement.
Je constate qu'on a tiré quand même quelques enseignements. Le fait que dehors, on se contamine moins qu'à l'intérieur et que donc il y ait une liberté de déplacement plus grande, c'est un point très important et très positif.
Un peu moins positif, l'état d'esprit de nombreux commerçants cet après-midi, sur le point de fermer boutique pour plusieurs semaines.
C'est compliqué, du coup, on essaye de s'organiser comme on peut. Donc on vous laissera un message vocal sûrement pour vous confirmer que le rendez-vous sera annulé le jeudi 25, du coup.
Ce salon de beauté se retrouve une fois encore dans la liste des commerces dits non essentiels.
Ben, c'est vrai que pour nous, c'est l'incompréhension totale. D'autant plus qu'on a cru comprendre que les salons de coiffure sont ouverts. Nous, on fait quand même un métier utile. C'est quand même très difficile à accepter et à vivre.
Un air de déjà-vu. Et une opposition qui, elle, a retenu une chose. Emmanuel Macron et son gouvernement ont perdu leur pari.
Le confinement, c'est ce que l'on fait quand on a tout raté.
Les Français paient au prix fort le pari perdu d'Emmanuel Macron.
La plupart de nos voisins européens font mieux, c'est un fiasco terrible.
Alors, l'exécutif tente de montrer le chemin de la sortie de crise avec la campagne vaccinale. Le sérum d'AstraZeneca est de nouveau autorisé en France depuis aujourd'hui, réservé désormais aux 55 ans et plus. Exactement l'âge du Premier ministre qui, cet après-midi, a retroussé sa chemise, pour l'exemple. Tandis que dans les services de réanimation des hôpitaux en Île-de-France, il va falloir attendre encore une dizaine de jours au moins avant que la situation s'améliore.
Nous devons donc encore, pendant un certain délai, travailler sous pression, à flux tendu, et devoir déprogrammer un certain nombre de soins et d'interventions chirurgicales. Mais très probablement, ces mesures porteront leurs fruits. En tout cas, c'est un pari qui met les Français devant leurs responsabilités.
Tenir encore à Paris. Tandis que les New-Yorkais, eux, commencent à retrouver leur théâtre et leur cinéma. Et les Israéliens, leurs bars, leurs restaurants, leurs concerts, munis toutefois de leur passeport vaccinal. À quelques détails près, donc, l'arrivée du printemps rime là-bas avec le retour à une certaine forme de vie d'avant.
Alors, question téléspectateur Cécile Cornudet. L'Île-de-France va connaître 12 millions de sportifs qui ont besoin de sortir toute la journée. Oui, puisque sur l'attestation, pour mettre jogging, on peut également mettre se promener. Mais seront-elles contrôlées, ces attestations? Parce que tout le monde va être dehors.
Oui, c'est la grande question. Jusqu'à présent, au deuxième confinement, il n'y a pas eu beaucoup de contrôle. Moi, ce que je pense, c'est que comme c'est très compliqué de savoir exactement ce qu'il faut faire, les gens vont regarder. Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce qu'on est contrôlé quand on sort d'Île-de-France? Est-ce que la SNCF a injonction de baisser son offre de train, par exemple? Ou est-ce que tous les trains vont pouvoir continuer à circuler, ce qui sera tentant pour les prendre et partir? Et en fonction de ce qu'ils verront de ces contrôles, ils adapteront leur comportement à ça. Moi, je crois beaucoup que l'efficacité va se jouer dans les contrôles ou pas qui vont être mis en place. Mais jusqu'à présent, Gérald Darmanin n'a pas eu envie beaucoup de miser sur les contrôles, ne serait-ce que parce qu'il est beaucoup pris ailleurs sur les phénomènes de bande et d'insécurité dont on a parlé à d'autres émissions.
Sois-y, Kemener, décidément, il est bien étrange ce confinement, mais est-ce qu'il n'y a pas le double risque pour Emmanuel Macron? Un, bah, politiquement, finalement, il revient sur sa promesse du 29 janvier qui était de ne pas reconfiner, entre guillemets. Et puis deux, sur le plan sanitaire, on vient d'entendre Gilbert Doré et pas mal de personnels hospitaliers dire qu'ils craignent que les mesures ne soient pas assez efficaces pour étouffer cette troisième vague qui va continuer à monter, quoi qu'il arrive, dans les 15 prochains jours.
Oui, effectivement. Alors, d'un point de vue politique, hein, pas d'un point de vue sanitaire, parce que je ne suis pas compétente sur cette question-là, mais d'un point de vue politique, sa décision de la fin janvier avait été plutôt bien reçue. C'est-à-dire que c'était un moment où les Français se sentaient déjà serrés dans ce couvre-feu, et finalement, c'était le chef de l'État qui donnait l'impression, alors que la France avait été, en difficulté sur la question des masques, des tests, etc., la campagne de vaccination avait mal commencé, on avait regardé avec envie les voisins, notamment au Royaume-Uni, qui arrivaient à se faire vacciner, alors que les Français avaient attendu au début du mois de janvier que ça se lance. Et donc, le président de la République avait envie de dire, finalement, j'ai réussi quelque chose. C'est-à-dire que les autres sont confinés et nous, on ne l'est pas. Mais il y a eu énormément de poids politique. D'ailleurs, ça a été abondamment commenté par ses proches, mis dans ce pari. Et c'est peut-être là l'erreur, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a non seulement cette catastrophe sanitaire, notamment dans les hôpitaux en Île-de-France qui se profile. Enfin, ça, c'est ce que vous expliquez à l'instant, professeur. Et en même temps, il y a la question effectivement du poids politique qu'il a mis dans la décision du mois de janvier. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si tous les candidats à la présidentielle potentiels ou déclarés se sont réveillés hier soir, évidemment en appuyant sur cette idée du pari perdu d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que depuis le début, dans cette crise, le président de la République essaie de prendre ses décisions en regardant tous les facteurs. Mais évidemment, plus on se rapproche de la présidentielle, plus il y aura cette suspicion en permanence de prendre les décisions parce que la présidentielle s'approche et parce que finalement beaucoup dans son entourage disaient pour pouvoir être candidat à la présidentielle et être vainqueur, il faut réussir la vaccination. Et on voit bien là la difficulté dans laquelle est le président de la République parce que la vaccination, alors il y a eu des facteurs exogènes bien entendu, mais ça n'avance pas suffisamment aux yeux des Français. Et de l'autre côté, ben, ces nouvelles contraintes qui sont des contraintes, c'est vrai, un peu étranges, un peu qui vont s'éclaircir sans doute. Enfin, on va comprendre un peu mieux ce qu'est cet objet politique un peu non identifié aujourd'hui, qui est ce nouveau confinement, ce troisième confinement, ce non-confinement qui est quand même un confinement. Mais c'est vrai que c'est un ensemble, un cocktail politique qui est très délicat.
C'est pour ça qu'il n'utilise pas le mot confinement, parce qu'il ne veut pas se dédire par rapport au 29 janvier. Et c'est pour ça qu'il envoie Jean Castex l'annoncer, alors que c'est toujours lui qui a annoncé les confinements jusqu'à présent.
Daniel Lévy-Brulle, alors autre mesure de ce confinement, on est obligé, il va falloir qu'on trouve un nouveau mot de ces nouvelles mesures de restriction, c'est l'interdiction de se déplacer de plus de 10 km par rapport à son lieu de résidence, ce qui fait d'ailleurs qu'on a vu beaucoup de jeunes ce matin dans les gares s'échapper, si on peut dire, hein, parce que ça veut dire que tout le week-end, on va devoir rester, si on habite un petit appartement, dans son petit appartement. Quel est l'objectif de cette restriction de circulation? Est-ce que c'est, je ne sais pas, d'éviter les déjeuners de famille, d'aller voir ses parents qui peuvent habiter parfois à 20, 30, 40 kilomètres? Quel est le sens, le ressort de cette restriction de circulation de ces 10 kilomètres?
J'imagine que dans cette décision, il y a la prise en compte de la forte hétérogénéité spatiale, hein, géographique, qui existe encore en France entre les différentes régions. On a des régions, et en particulier trois régions, qui sont particulièrement affectées avec des taux d'incidence et des charges hospitalières extrêmement élevées, et puis des régions qui sont relativement épargnées aujourd'hui. Et donc l'idée de restreindre les déplacements lointains, c'est probablement l'idée d'éviter trop de déplacements qui seraient susceptibles d'être le germe de clusters à partir de zones particulièrement touchées vers des zones moins touchées. Donc l'idée, c'est de rester un petit peu entre soi.
Gilbert Deray, il y a une décision qui a été prise, c'est de ne pas fermer les écoles. Ça aussi, vous le regrettez? On sait que les cantines sont malheureusement un haut lieu de contamination.
On est dans un débat qui est très difficile, qui est difficile à trancher, et pourtant, il faut prendre position.
Vous me parliez des autres pays. Dans beaucoup de pays, on ferme les écoles.
Je vais prendre position. Mais je voudrais souligner que ce n'est pas un débat facile, parce que c'est vrai que l'école, c'est un sanctuaire, parce que c'est vrai que fermer les écoles, ça a d'énormes conséquences. Mais les enfants sont des vecteurs, c'est maintenant clair. Quand on regarde d'ailleurs les taux de contamination, plus vous êtes jeune, plus vous êtes contaminé, ça démarre dès l'âge de 10 ans. Donc il y a un vrai problème qui est là. L'école est un réservoir de contamination, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est qu'après, c'est une balance risque-bénéfice, c'est d'ailleurs du sanitaire. Qu'est-ce qui est le plus risqué? C'est de les fermer ou de les garder ouvertes? C'est de laisser le virus circuler, mais au prix d'avoir des enfants qui sont chez eux. Si on voulait appliquer des mesures sanitaires claires, il faudrait fermer les écoles. Et on a un énorme problème, on en a plusieurs. Un, on a diabolisé le mot confinement. On l'a politisé, le mot confinement. Ça, c'est une erreur. Le mot confinement, ce n'est pas une insulte. Et la deuxième chose que, moi, qui me gêne beaucoup, c'est que...
Si un enfant est confiné chez lui qui ne va pas à l'école, de professeurs et de parents vous disent qu'il rate beaucoup de choses.
Bien sûr, c'est global. Et alors, justement, ça m'amène à mon deuxième commentaire. Nous regardons, il faut dézoomer tout. Au lieu de regarder les 6 premiers mois de l'année 2021, regardons les 2 prochaines années. Quel est le drame? Est-ce qu'il est de rester 9 mois en 3 quarts confinement et maintenant 90 confinements comme maintenant, ou de faire 2 mois de confinement total et de réouvrir le pays? Moi, je pense que la bonne décision, c'était la deuxième. C'était de fermer le pays comme d'autres l'ont fait pendant 2 mois, y compris les écoles, puis de déconfiner progressivement.
Et le scénario optimiste comme quoi la vaccination va rattraper bientôt, il va avoir des effets, ce qui fait qu'à la fin du printemps, on pourra avoir les réanimations, enfin l'hôpital qui est...
Non, pour deux raisons. La première, c'est quand regardez bien ce qui s'est passé en Israël et en Grande-Bretagne, deux pays leaders là-dessus. Ouais. Ils ont fermé le pays et ils ont vacciné. Pourquoi ils ont fermé le pays? D'abord parce que 300 morts par jour, on les oublie, hein. On les oublie. 300 morts par jour, tout le monde s'en fout depuis 6 mois. Moi, je m'en fous pas. Deuxièmement, parce que je vais le redire encore, parce qu'on ne le dit pas assez, parce que les gens ne perçoivent pas, mais il y a la Covid longue qui pose problème, qui va coincer des millions de personnes. Donc, ce n'est pas une bonne solution. La deuxième chose, c'est que pour les courbes se croisent, encore faut-il vacciner. Nous n'avons pas un rythme de vaccination qui nous permette d'espérer. C'était le pari qui était fait quand on parlait mi-avril. Ça n'est pas possible. Ce qu'on peut espérer, si on vaccine au rythme qu'on nous a annoncé, et ça, c'est loin d'être gagné, parce qu'on risque de perdre AstraZeneca. On nous avait dit 30 millions de personnes en juin, et tous les adultes qui le veulent en septembre. Donc moi, ce que j'attendrais, c'est de jolies courbes qui commencent à s'inverser en juin prochain, une assez bonne situation en septembre, et il faut dire à ceux qui nous écoutent, nous allons vaincre la Covid-19 d'ici 2021, le pays reprendra sa vie quasi normale en 2022. C'est ça le message. Et permettez-moi d'insister en disant, il faut dézoomer et lever le nez du guidon. Il faut arrêter de regarder la semaine prochaine ou dans 15 jours, arrêter de nous donner des dates qui n'ont aucun sens. Ce qui m'intéresse, c'est l'état du pays à la fin de l'année pour 2022-2023. Parce que j'ai une économiste en face de moi. Les moins X% du PIB cette année, j'y connais rien. Je m'en fous. Est-ce que le pays va se redresser en 2022-2023? Oui, et c'est ce que nous montrent les pays extérieurs. Ceux, par exemple, qui ont fait la zéro Covid. Rebond partout. Donc, nous dire, oh, attention, fais attention à l'économie. Il ne faut pas que ça baisse entre juin et je ne sais pas quoi, entre mai et juin. je m'en moque. Par contre,
alors même si on peut penser qu'il y a d'autres critères comme la santé mentale qui ont été évidemment pris en compte, hein, les suicides.
Je vous fais un commentaire là-dessus et bien entendu, mon propos ne peut être, ou alors il faut qu'on reste ensemble toute la soirée, qu'en partie réducteur. Santé mentale, là encore, personne ne peut me démontrer, et je pense au contraire, que 2 mois de confinement total, qui vous avez compris mon mantra, plus un déconfinement propre, c'est pire que 9 mois de ce qu'on est en train de vivre. Là, la santé mentale, elle s'abîme au fil des semi-confinements.
Alors, en revanche, c'est vrai que ceux qui sont les victimes de ce nouveau confinement, ce sont les commerces. Alors, notamment, on revient au sketch un petit peu des commerces essentiels, non essentiels. On n'a pas la liste arrêtée, d'ailleurs, des commerces non essentiels.
Non, ça se négocie en ce moment.
Les coiffeurs, ce matin, c'est Gabriel Attal, ils se croyaient non essentiels, ils ont basculé dans l'essentiel.
L'Élysée parlait des fleuristes hier soir aussi, mais ce matin, Gabriel Attal disait que click and collect pour les fleuristes. Donc tout ça est en négociation en ce moment. Il y a un décret que Bercy va sortir demain pour voir qui est vraiment concerné.
Il y a tous les lobbies qui sont à Bercy en train de dire...
Les professions, oui.
En train de dire, enfin, les professions, voilà.
Bah de pousser leurs intérêts, c'est normal. C'est des salaires. C'est des vies derrière.
Quels sont les critères alors qui fonctionnent auprès de. Qui ont l'oreille de Bruno Le Maire ?
Les coiffeurs, je ne sais pas exactement quels sont les arguments, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va revivre aussi dans les grandes surfaces les rayons bâchés.
Ah oui, les rayons bâchés.
Donc toutes ces choses absurdes qu'on a connues au second confinement, parce qu'en fait, comme on priorise l'école, pour la santé mentale des enfants, pour que les parents puissent continuer à travailler, du coup, il faut bien. Qu'à partir du moment où il y a confinement, que quelqu'un ferme. Et en fait, c'est, si vous voulez, c'est les commerçants qui sont les sacrifiés un petit peu de ce nouveau confinement.
Sois-y, Kemener, on est en train de vivre en ce moment même, on voit bien la complexité de ce dossier entre des petits commerçants qui ne comprennent pas pourquoi, eux, on les met dans la case non essentielle, ils doivent fermer, ils se demandent bien. D'ailleurs, ils disent, chez nous, on respecte le protocole. Et d'un autre, la colère aussi de ceux qui sont confrontés toute la journée à ces malades qui meurent du Covid et qui se disent « on n'en peut plus, on est en train de craquer ». Et on voit bien la grande solitude des politiques. Est-ce que c'est un signe d'ailleurs de voir qu'il n'y a pas d'opposition, qu'on entend peu l'opposition ? Et y compris, je crois que Martine Aubry a l'air de dire « finalement, c'est pas si mal que ça, ce confinement à la sauce Macron ».
Et on a vu aussi Anne Hidalgo dans votre reportage, hein. C'est intéressant parce que c'est deux maires de la capitale et d'une grande métropole et elles se font le reflet des deux mondes des habitants de leur ville qui vivent souvent plus qu'ailleurs dans des plus petits appartements, qui ont besoin de respirer et qui ont plus souffert du premier confinement où effectivement ils avaient assez peu d'espace pour supporter ce moment. Mais c'est vrai que autant les maires, je trouve, globalement, alors si on laisse de côté les Alpes-Maritimes, mais pour les Alpes-Maritimes, c'est un peu la double peine dans la mesure où ils ont été confinés 3 semaines déjà le week-end et puis qu'ils ne comprennent pas très bien pourquoi ils se retrouvent dans la même situation que l'Île-de-France et les Hauts-de-France et les départements limitrophes. Mais sinon, les élus ont plutôt... Jean Castex disait mardi soir, il répondait à une interview, il disait qu'il regrettait de ne pas avoir suffisamment discuté ou en tout cas trouvé de points de convergence avec les élus locaux. Là, en revanche, ça a été trouvé. On voit que ceux qui protestent, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'une stratégie aurait dû être planifiée depuis longtemps, puisque c'est un de ses mantras politiques, la planification. Marine Le Pen aussi, qui regrette ce confinement qui tombe au dernier moment. Donc, ceux qui se sont exprimés le font vraiment dans un contexte d'opposition nationale. Mais en revanche, si on regarde ce qui s'est passé en Île-de-France notamment, là, il y a plutôt un soutien parce que, de toute façon, les politiques savent bien qu'ils sont devant des décisions qui sont presque impossibles désormais à annoncer à la population. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un palimpseste de mesures ? Il reste toujours un bout de la mesure précédente et finalement, on les empile comme un millefeuille de mesures. Et on ne sait pas si la stratégie que propose le professeur Deray, c'est-à-dire un stop pendant 2 mois, serait mieux accepté par les Français. Mais c'est vrai qu'il y a une fatigue de ce millefeuille perpétuel. Alors, il reste toujours quelque chose des restrictions précédentes. Et c'est vrai que le retour à la normale semble s'éloigner de plus en plus. Donc pour les politiques, c'est très compliqué de se positionner. Et puis l'opposition, ils ne sont pas aux manettes, tout simplement. Ils n'ont pas toutes les informations que peut avoir le président de la République ou le gouvernement. Donc ils essaient de répondre au coup par coup. Comme les décisions sont prises au coup par coup, ils réagissent aussi au coup par coup. Et d'ailleurs, je pense que c'est la principale critique qui peut être faite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit en Italie, il y a des critères très nets pour savoir si on est en zone blanche, en zone jaune, en zone orange, en zone rouge, et ça entraîne des fermetures. Tandis que nous, on a l'impression que tout est remis à plat à chaque nouvelle restriction. Et ça, je pense que c'est très usant pour les nerfs des Français. Regardez, on est en train de se demander qui va être ouvert demain, qui, quoi, comment on s'organise. C'est encore très, 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 très flou. Et je pense que ça, c'est très dur psychologiquement pour les Français.
Daniel Lévy-Brul, est-ce qu'à Santé publique France, vous mesurez la tolérance des Français, l'acceptabilité des Français sur ces mesures de restrictions, et jusqu'où on serait prêt à aller?
Alors, on n'a pas d'enquête spécifiquement dédiée à cette question, mais on pourrait le faire. Ce qu'on mesure de manière régulière, puisque c'est une enquête qui a lieu depuis maintenant de nombreux mois, chaque mois, qui mesure l'adhésion des Français aux différentes mesures de limitation de la transmission, le port du masque, la distanciation physique, etc. Donc on voit une relative stabilité dans l'adoption de ces mesures, à un niveau élevé, il faut le dire, hein, la plupart des Français adhèrent à ces mesures, malgré la contrainte qu'elles font peser sur la vie quotidienne. Bien entendu, il reste une petite portion des Français qui disent qu'ils n'adhèrent pas à ces mesures ou qu'ils n'adhèrent que parfois à ces mesures. On ne voit pas d'évolution nette depuis plusieurs semaines, et ça va être intéressant dans les prochaines vagues de cette enquête, en particulier en comparant les différentes régions, puisque de plus en plus on est maintenant dans une situation à la différence de ce qu'on a connu dans la première moitié de cette crise, où les mesures sont différenciées selon les régions. Ça va être très intéressant de pouvoir comparer la manière dont les Français adhèrent ou non aux mesures en fonction du lieu où ils habitent et des mesures qui ont été mises en œuvre.
Alors, pour faire retomber la pression à l'hôpital, les autorités misent aussi sur les transferts de patients. Mais voilà, ces opérations d'évacuation sanitaire sont compliquées à mettre en place, comme vous allez le voir dans ce reportage de William Rouzet et Pierre Dehorn.
Un service de réanimation sous tension dans cette clinique privée des Hauts-de-Seine. Déjà 8 lits occupés sur les 12 disponibles.
On a reçu 2 nouveaux patients aujourd'hui, un de l'hôpital de Neuilly et un patient de l'hôpital de Garches.
Le privé prend sa part de patients pour soulager l'hôpital public.
Donc par exemple ici, vous avez une chambre vide parce qu'on n'a pas trouvé suffisamment d'infirmières pour la faire tourner.
Mais le manque de personnel commence à se faire sentir et l'établissement n'aura dans quelques jours plus de capacité d'accueil. Avec des services de réanimation occupés à 105% en Île-de-France, il devient urgent de les désengorger.
Si on a plus de malades qui nous sont proposés, alors on va être obligé de faire des choix entre soigner un cancer ou soigner un Covid, soigner un infarctus ou soigner un Covid.
En conséquence, la semaine dernière, le gouvernement mise sur une stratégie déjà utilisée lors de la première vague, le transfert de patients vers d'autres régions moins touchées par l'épidémie. L'exécutif promet une centaine d'évacuations par trains et avions médicalisés. Pourtant, depuis lundi, seule une dizaine de patients ont quitté l'Île-de-France. Pourquoi si peu ? Les autorités ont surestimé le nombre de patients éligibles à un transfert, selon ce médecin.
Il faut un véritable alignement des planètes pour que le patient puisse être transféré. Premier des critères, ce sont des critères médicaux. Bien sûr, ces patients doivent être parfaitement stables. Ce sont des patients qui sont très graves, qui sont sous ventilation artificielle, pour lesquels il y a des médicaments qui sont administrés de manière continue, mais on ne veut prendre aucun risque. Après, il y a des critères de logistique. Par exemple, le patient ne doit pas avoir un poids trop important parce que ça met en danger, si vous voulez, les phases de brancardage.
Il faut aussi convaincre les familles. Aujourd'hui, la grande majorité refuse le transfert pour s'épargner la douleur de l'éloignement. Eux l'ont vécu lors de la première vague.
Ça, c'est les photos du transfert.
En avril dernier, lorsqu'il ouvre les yeux, Gérard se réveille à l'hôpital de Vannes, à 500 km de chez lui, en banlieue parisienne. La séparation est un traumatisme.
Quand on m'a dit que j'étais à Vannes, moi, j'étais dans un trou, quoi. Enfin, j'étais complètement perdu, quoi. Je savais que le Covid, on était un peu pestiféré à ce moment-là. Donc les familles ne pouvaient pas approcher, etc. J'étais complètement laissé. C'est difficile à exprimer, si vous voulez, mais j'étais abandonné.
C'est très difficile parce que on voudrait faire plus, on voudrait être proche.
Et en fait, on ne peut pas. On est coincé. On est comme si on avait une porte de fermée et on ne sait pas ce qui se passe derrière.
Une souffrance qui n'est aujourd'hui qu'un mauvais souvenir. Après 18 jours passés dans l'hôpital de Vannes, il est maintenant guéri et reconnaissant envers le personnel soignant.
Grâce à eux, je suis là.
Ah, oui. Et eux vont répondre, mais c'est notre métier, mais c'est au-delà du... C'est vraiment... C'est pas un métier,
C'est formidable.
Ouais.
Comme Gérard, près de 650 patients ont été transférés l'année dernière pendant la première vague. Aujourd'hui en France, 84% des lits de réanimation sont occupés et la marge se réduit de jour en jour.
Alors, question téléspectateur. On sait peu de choses sur le profil des nouveaux patients. Pourquoi ? Question de Gauthier à Paris, Gilbert Doret.
Alors, ce qu'on constate, c'est que l'âge baisse.
Conséquence du variant.
Alors, conséquence de plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut imaginer, c'est vrai, que comme on a vacciné dans les EHPAD, on a en fait une tranche d'âge qui est moins touchée. Ça, c'est magnifique, ça vous montre d'ailleurs l'efficacité de la vaccination. Dans les EHPAD, ça commence à aller bien. Si on était tous dans les EHPAD, plutôt que d'être tous dehors, on serait tous bien. La deuxième chose, c'est que oui, ça baisse, et probablement pour plusieurs raisons. La première, c'est le variant anglais, qui est non seulement plus contagieux, mais plus mortel. Probablement beaucoup plus mortel.
Alors 64% plus mortel, disait la fameuse étude du British Medicine Journal.
Et peut-être aussi en raison d'un fort relâchement. Parce que quand vous voulez garder des mesures contraignantes depuis novembre dernier, et nous sommes en mars, et probablement pour les 3 mois qui viennent, c'est intenable pour les Français. Et donc vous avez les jeunes qui se contaminent à toute allure, les plus jeunes, pour moi les plus jeunes, c'est 10 à 30 ans, et qui vont contaminer les plus âgés, c'est-à-dire ceux qui vont finir en réa, 40, 50, 60 ans. On a des quadragénaires et des trentenaires en réanimation, dont un tiers vont mourir. Alors peut-être pas forcément ceux-là, parce qu'ils vont tenir mieux, mais quand même, vous en perdez 30% dans les réanimations. Je réponds ainsi aussi aux personnes qui nous disent « faites des lits de réanimation ». On va pas. Si vous avez 20 000 lits de réanimation, on va en perdre 30%. L'objectif, c'est pas...
Ça fait 7 000 morts.
L'objectif, c'est pas de mettre des gens en réanimation, c'est qu'ils ne viennent pas en réanimation. Donc, pour répondre à votre question, oui, ils sont plus jeunes et ça nous inquiète.
Est-ce que le profil est différent ? Vous avez Il y a toujours ces comorbidités, l'obésité, l'hypertension. Est-ce que ce sont toujours majoritairement des hommes ?
Alors, vous avez toujours majoritairement, on a l'impression que les femmes, ça commence à monter en puissance. On a des gens qui n'ont aucune comorbidité qui sont en réanimation, de plus en plus. Et la différence, ça va se jouer après sur le pronostic. Il est évident que si vous entrez en réa, que vous êtes obèse et ou diabétique, votre risque de mourir est plus grand que si vous avez 40 ans en forme.
Cécile Cornudet, c'est ce discours d'ailleurs, je crois que Emmanuel Macron a entendu à Poissy jeudi.
Oui,
et ça l'a un petit peu déstabilisé. Enfin,
ça l'a amené à changer d'avis. Ça l'a fait changer sur juste confinement le week-end ou d'essayer de trouver une nouvelle forme de confinement plus large et espère-t-il plus efficace, ce qui sera une autre histoire. Il a eu une réunion avec une dizaine de réanimateurs et il leur a demandé qu'est-ce que vous craignez si, quand vous parlez d'embolie de l'hôpital, qu'est-ce que vous craignez ? Eh bien, on craint d'avoir à choisir dans les semaines qui viennent entre des gens de 40, 50 ou 60 ans. Donc ça l'a fait bouger, paraît-il.
Alors la bonne nouvelle, Soizic Kemener, c'est l'autorité européenne du médicament qui a à nouveau autorisé, enfin qui a considéré que le vaccin Pfizer était sûr et AstraZeneca était sûr et efficace. Et du coup, cet après-midi, Jean Castex s'est fait vacciner. Alors d'ailleurs, il n'était pas forcément dans les clous pour se faire vacciner, mais c'était pour restaurer la confiance dans ce vaccin qui néanmoins est durablement ébranlé avec cette affaire.
Oui, alors il s'était posé la question au mois de janvier au gouvernement de savoir s'il fallait se faire vacciner ou pas. Et Roselyne Bachelot les avait dissuadé ses collègues en disant « Mais regardez, moi j'ai été vaccinée au moment de la grippe H1N1 et ça a suscité plutôt des sarcasmes plutôt qu'un élan vers les vaccinodromes pour aller se faire vacciner. » Donc ils avaient décidé de ne pas y aller et surtout de respecter la campagne de vaccination et les étapes et notamment les âges. Donc il y avait assez peu, évidemment, même personne au gouvernement qui pouvait se faire vacciner tout de suite. Alors après, là, on est dans un cas particulier, c'est-à-dire que c'est le vaccin mal aimé, l'AstraZeneca, et donc le geste du Premier ministre, après son ministre de la Santé, qui est un soignant et qui a déjà été vacciné devant les caméras, l'idée, c'était de donner le go, ça repart, on recommence à avoir des vaccins AstraZeneca. Alors après, la difficulté d'un tel geste, c'est que effectivement, ça peut rassurer, mais aussi ça peut donner très envie d'aller se faire vacciner. On sait bien qu'on a des grosses difficultés à la fois pour avoir encore des rendez-vous et puis surtout des problèmes d'approvisionnement, ça qui ont déjà été annoncés la semaine dernière. Et donc, toute la difficulté, c'est à la fois en politique de vouloir redonner confiance en un vaccin et en même temps, bah, au bout du bout, tous ceux qui veulent se faire vacciner ne pourront pas se faire vacciner, même si le geste du Premier ministre, qui est plutôt une image de bonne communication politique aujourd'hui, puisqu'il était un peu souriant, rieur, ça fonctionnait bien à la télévision, mais la difficulté, c'est que la réalité, c'est qu'il y a énormément de gens en France qui veulent se faire vacciner pour sortir de ce cauchemar et qui ne peuvent toujours pas le faire.
Alors Gilbert Deray, ce vaccin AstraZeneca, au début, on se souvient, on ne voulait pas l'administrer aux plus de 64 ans parce qu'on disait on n'est pas sûr qu'il marche. Alors maintenant, on n'y comprend plus rien. On ne veut pas l'administrer aux moins de 55 ans parce qu'on dit attention, je cite la Haute Autorité de Santé, qui a identifié une possible surrisque de coagulation intravasculaire disséminée, bon, c'est tellement compliqué, chez les personnes de moins de 55 ans. Alors ça veut dire quoi? Il ne faut pas vacciner les moins de 55 ans? Il va être réservé aux personnes les plus âgées?
On n'en est pas là. D'abord, je suis attristé. Parce que le vaccin, qui est un progrès juste absolument fabuleux, va nous permettre de sortir de la crise. Et la face lumineuse de cette crise, c'est la science exceptionnelle. Nous sortirons de la crise grâce à la science. Ça, j'en suis convaincu. Et rapidement. Alors, deuxièmement, il joue de mal sur celui-là. D'abord, c'était pas les plus de 65 ans, pas parce qu'on avait un doute. On n'avait pas de données. Ouais. C'est mal passé, ça, d'ailleurs, dans le public et dans les médias. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on avait des données qui marchaient très bien chez les plus de 65 ans. Et là, la HAS qui donne, attention, une recommandation, hein, ce n'est pas elle qui décide. Hein, ça va passer par l'agence de santé, ça va passer par le ministre de la Santé, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et alors que le MEA, comme on s'y attendait, hein, a dit go, ils nous mettent un warning sur les moins de 55 ans. Je n'ai pas pu voir le détail aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore publié le détail. Donc j'ai juste entendu le communiqué, j'ai appelé quelques collègues. Et effectivement, ce qu'ils pensent, c'est que en dessous de 5 ans, que tous les cas en fait, de thrombose sévère en France étaient des moins de 55 ans. Et que donc, pour cette raison-là, ils pensent qu'il y a un sur-risque, mais à ma connaissance, sans avoir évalué le bénéfice. Donc, j'attends le rapport complet, et pour l'instant, la recommandation, c'est moins de 55 ans. Si on maintient ça en France, contrairement à ce qui se fait dans le monde, hein, je vous rappelle que l'Australie va vacciner toute sa population, les 25 millions avec de l'AstraZeneca, que la Belgique n'a pas arrêté, j'en ai plein comme ça. Si on maintient ça en France, c'est la mort du petit cheval, hein.
Donc, moins de 55 ans, on fait quoi? On y va quand même?
Attendez, je ne peux pas vous dire ça, moi. Il y a une recommandation, il va y avoir peut-être une contre-indication. Moi, à mon
sens, il y a le poison du doute.
Est-ce que je pense... Je vais vous répondre quand même. Est-ce que je pense que le rapport risque-bénéfice à ce jour est favorable? Oui. Ouais. C'est d'ailleurs ce que dit l'EMA. J'attends de voir ce rapport et j'attends de voir ce qu'on va nous autoriser à faire.
Cécile Cornudet,
est-ce qu'il y a des moins de 55 ans qui ont eu la première dose?
Oui.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la seconde dose?
Ça, on sait faire.
Ça veut dire que vous les vaccinez avec un autre?
Si, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était même déjà dans l'air, ça.
Mais c'est surtout toute la stratégie, l'essentiel de notre vaccin, c'était l'AstraZeneca, même dans les mois qui viennent. Donc, il va falloir totalement repenser notre stratégie vaccinale s'il est déconseillé au moins de 55 ans.
On a bien fait de suivre l'Allemagne lundi. Emmanuel Macron a bien fait. L'opinion a titré sur la démocratie d'émotion. Hop, il y a une émotion, on arrête tout. On oublie le rationnel, on oublie le politique qui s'intéresse au bien commun, on
c'est
est sur
sûr
l'émotion.
Que dans un pays qui doute comme ça, ça ne fait qu'accroître le doute. Est-ce que politiquement, vis-à-vis de cette opinion si défiante, il pouvait prendre le risque de dire ben, « l'Allemagne a des doutes, mais moi j'en ai pas, je continue ». Je pense qu'il était presque obligé de suspendre, mais c'est vrai que c'est très très contesté.
Daniel Lévy-Brul, votre regard de scientifique rationnel sur cette semaine chaotique concernant le vaccin AstraZeneca.
Oui, alors c'est bien sûr extrêmement difficile de statuer dans ces situations d'incertitude sur le risque d'un produit qui est suspecté d'induire des effets secondaires très, très rares, mais potentiellement très graves. Néanmoins, on a un vrai signal, et ça, le communiqué de l'Agence du médicament européenne est très clair là-dessus, sur ces deux pathologies qui ont été citées, qui sont des pathologies exceptionnelles mais de grande gravité, les données dont on dispose, hein, en rapportant le nombre de cas observés chez les vaccinés avec le nombre de cas qu'on attend dans la population générale, sont vraiment en faveur d'un excès de risque lié à ce vaccin. Et effectivement, cet excès de risque, il concerne essentiellement, pratiquement exclusivement, les jeunes. Dans la mesure où on a en France des alternatives, je pense qu'il n'est pas illicite et je pense que les Français seront plutôt satisfaits de dire ben, ça reste à explorer, bien sûr, c'est un signal, ce n'est pas encore une relation de causalité qui est prouvée, mais c'est un signal fort. Et dans cette situation, à partir du moment où on a les moyens d'offrir aux Français de moins de 55 ans un autre vaccin, je pense qu'il n'était pas déraisonnable de dire eh bien, préférons un autre vaccin. Toute la question est de savoir si on sera effectivement dans la vraie vie en mesure d'offrir ce vaccin à tous ceux qui le souhaiteront. Aujourd'hui, on a plutôt des bonnes nouvelles sur les doses de vaccins ARN messager, Pfizer en particulier, qui vont pouvoir être livrées à la France. De toute façon, on avait plutôt des difficultés quant aux livraisons d'AstraZeneca, ce n'est un secret pour personne. Donc voilà, si on arrive à bien pallier le déficit de vaccins AstraZeneca pour les jeunes par du vaccin ARN messager, je crois que tout le monde sera satisfait et que finalement la décision qui est prise de prudence, de précaution, en attendant les études complémentaires, paraît relativement raisonnable à ce jour.
Daniel Lévy-Brul, j'aimerais qu'on vous montre une carte. Alors, on sait que le virus se répand. En ce moment, la situation est très tendue en Île-de-France et dans la région Grand Est. J'aimerais qu'on vous montre la carte des départements et des régions de France les plus vaccinés en pourcentage. Eh bien, on va voir que, justement, c'est la Creuse, c'est l'Indre, c'est l'Allier, mais que, précisément, l'Île-de-France et le Grand Est, en pourcentage, sont l'Île-de-France et le Hauts-de-France sont les régions où l'on vaccine le moins en pourcentage. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre le paquet en vaccin là où il y a le paquet du virus ?
Si, tout à fait. Mais il faut faire attention dans l'interprétation de ces cartes. Il y a un facteur qui me paraît déterminant, qui est la démographie. Comme vous le savez, on a vacciné essentiellement les seniors. Et la répartition par âge de la population française n'est pas identique en Creuse et dans le nord de la France. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est refaire une carte en regardant la couverture vaccinale, en prenant en compte la proportion différente des sujets de 75 ans et plus. Et je pense que l'image serait relativement différente.
Très bien. Et bien maintenant, je vous propose un petit voyage en Sardaigne. La Sardaigne qui fait figure de petit paradis dans une Europe qui vit sous cloche, puisque, alors que toute l'Italie subit un nouveau tour de vis, eh bien, les écoles, les commerces, les bars et les restaurants en Sardaigne, eux, sont toujours ouverts. La recette de ce succès, ce sont des dépistages massifs menés localement et une interdiction stricte de se déplacer entre les régions. Vous voyez ce reportage en Sardaigne de Juliette Perrault et Ariane Morisson.
Ce sont des images que l'on croirait venues du passé. Des amis qui trinquent, des couples qui prennent l'apéritif, des serveurs qui remplissent les verres. Une joyeuse cacophonie, devenue tellement inhabituelle que certains ont encore du mal à y croire.
Je m'étais tellement faite à l'idée que les bars étaient fermés que j'ai mis du temps à revenir. Puis j'ai commencé par aller dîner et petit à petit j'ai repris l'habitude de sortir dans les bars. C'est vraiment super.
Le fait de pouvoir sortir, passer un moment avec mes amis après une grosse journée de travail, ça fait du bien.
Et même si le bar doit refermer ses portes à 21h, tous ont l'impression ici de regoûter un peu à la vie d'avant.
On a fait de la vente à emporter et de la livraison, mais ce n'est pas du tout pareil. Notre travail, c'est le contact avec les gens. C'est ce qui nous donne l'énergie pour travailler.
Un sentiment de légèreté qui gagne toute la Sardaigne depuis 3 semaines. Vidée de ses touristes, l'île italienne affiche un taux d'incidence d'à peine 40 cas pour 100 000 habitants. Une zone blanche où peuvent rouvrir les bars, les restaurants et même les cinémas et les théâtres.
Ici, au lieu de faire le mouvement comme ça, je fais ça.
Au théâtre Massimo de Cagliari, les acteurs ont repris le chemin de la scène et ils ont hâte de retrouver leur public.
Jouer devant un public, c'est notre métier. On sent la présence du public, les gens qui discutent avant qu'on entre en scène. Pour une fois, on a même envie de les entendre discuter et sentir qu'il y a des gens, même s'ils font du bruit. Qu'on puisse se dire « Ah, enfin, ils sont revenus ».
Bonjour. Comment va ?
Le directeur, lui, se laisse encore 10 jours avant de rouvrir son théâtre. Le temps de finaliser la programmation et de s'aligner sur les nouvelles directives sanitaires.
On a mis en place ces petites tables pour respecter la distance physique imposée entre les spectateurs. On a fait ça, un siège sur deux, et entre chaque rangée.
Un allègement des restrictions qui fait craindre à certains une reprise de l'épidémie. Alors, pour garder le contrôle, les autorités ont décidé d'organiser de grandes campagnes de dépistage à l'échelle de toute la Sardaigne.
Regardez droit devant vous, restez bien sans bouger.
Ce jour-là, au tour des habitants de Sélargius de pouvoir se faire tester gratuitement.
Combien de personnes sont passées depuis ce matin ?
Pas loin de 1000.
Une opération qui sera répétée d'ici la fin de l'année.
Ça va nous prendre environ 3 mois et demi pour aller de province en province. Cet été, on va mettre le processus sur pause parce que c'est une période où l'on vit beaucoup dehors, où l'on se contamine moins. Mais dès la rentrée, avec la reprise de l'école, on va reprendre le dépistage de façon très intensive.
Garder le contrôle localement, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. À l'aéroport de Cagliari, toutes les arrivées sont désormais contrôlées. Impossible de poser un pied sur l'île sans test négatif, y compris en provenance du reste de l'Italie.
Ça demande un peu de temps. Là, le vol a eu du retard parce qu'une personne n'avait pas rempli tous les papiers.
Ceux qui n'ont pas suivi la procédure ont le choix entre passer un test antigénique à l'arrivée ou se mettre en quarantaine. Un dispositif qui pourrait être maintenu cet été.
Tous les voyageurs sont négatifs ?
Oui, tous négatifs.
Parfait.
On est en train de voir si ce système peut marcher, y compris avec l'afflux de voyageurs que nous avons l'été. On réfléchit aussi à une coopération entre les régions d'Italie pour que les personnes qui arrivent en Sardaigne aient déjà fait leur test ou aient déjà fait valider leur certificat de vaccination.
Objectif pour les autorités, ne pas revivre l'échec de l'année dernière, quand la Sardaigne, victime de son succès, avait connu une reprise de l'épidémie dès la fin de la saison estivale.
Soisy Kemeler, quand on voit ces images, alors d'abord elles font envie, mais on voit qu'en Israël, les restaurants, les bars ont rouvert. On voit qu'à New York, je ne sais pas si vous avez vu hier ce reportage dans le journal de 20h, les cafés rouvrent parce que les gens sont vaccinés et que ça y est, on est en sortie de crise qui est en train de se manifester. Il y a eu 100 millions de doses injectées aux États-Unis contre 7 millions chez nous. Est-ce qu'il y a un moment pour Emmanuel Macron, ces images de bonheur retrouvé chez nos voisins, on ne risque pas de lui en faire le reproche en lui disant « et nous ?»
Bien sûr. Alors, lui, il misait sur une autre comparaison, c'est-à-dire les autres étaient confinés et nous ne l'étions pas. Alors là, c'est vrai qu'en Italie, la situation, elle est très contrastée. C'est-à-dire qu'en Sardaigne, ça va plutôt bien, ils sont en zone blanche, mais en même temps, le Latium, la région de Rome et quasiment les trois quarts du territoire ont été reconfinés la semaine dernière. Les bars, les restaurants, on avait vu commencer à avoir des reportages, ça a été refermé. Après, Israël, c'est vrai que c'est un modèle dans la gestion de cette crise, mais c'est aussi parce qu'ils peuvent fermer les frontières, parce qu'ils ont peu d'habitants, 14 millions de mémoire. Enfin, on est sur un territoire beaucoup plus facile, sur un nombre de personnes beaucoup plus facile à vacciner. Alors, évidemment, eux ont géré leur achat de vaccins. C'est ça le reproche qui sans doute sera présent dans l'année qui va venir, c'est-à-dire le choix d'avoir fait ces achats de vaccins en commun par l'Europe. Est-ce que pour autant on aurait eu plus de vaccins si la France en avait acheté directement ? On ne le sait pas et on voit d'ailleurs que c'est la stratégie de réponse de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, qui est très présent sur ce dossier justement pour défendre la politique européenne et le choix qui a été fait. Mais c'est vrai qu'en comparaison, il va y avoir un moment où les Français vont commencer à regarder évidemment ce qui se passe ailleurs, parce que les beaux jours vont arriver, parce que tout le monde attend cette libération. Et c'est vrai que pour l'instant, si on regarde par exemple en Allemagne, ils vont être reconfinés, enfin, ils sont plutôt dans une stratégie de resserrement, ils ont aussi des difficultés de vaccination, donc le voisin allemand avec qui on se compare très souvent n'a pas de vraiment meilleurs résultats que nous en ce moment précis, même si au début de l'épidémie, ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc évidemment, ces images font envie, mais pour l'instant, elles sont hélas assez peu répandues.
Sauf que Cécile Cornudet, chez nos voisins en Allemagne, ce sont les lenders souvent qui prennent les décisions, agréables ou désagréables. En Italie aussi, c'est souvent l'administration. Chez nous, tout remonte à Jupiter. Et donc, il est redevable de tout, des bonnes, mais des mauvaises nouvelles.
Ça, c'est sûr. Il y a eu des débats sur, quand on a comparé les pays, sur quels étaient les types d'organisations qui fonctionnaient le mieux. Et en réalité, en Italie, où c'est très fédéral, ça n'a pas mieux fonctionné parce que ça a créé plein de problèmes. Et même en Allemagne, il y a eu des polémiques parce qu'elle n'arrivait pas, Angela Merkel, à prendre des décisions rapides parce qu'à chaque fois, il fallait qu'elle les négocie avec des Länder. Donc, de ce point de vue de l'organisation, je ne sais pas si ce sera forcément défavorable à la France. Du point de vue, effectivement, de la campagne vaccinale, ce choix européen, c'était très fort chez Emmanuel Macron parce qu'il veut vraiment mettre ça dans sa campagne présidentielle à lui, que son côté très européen. Et il a voulu faire, après les échecs des masques, la démonstration avec les vaccins que l'Europe, ça marchait. Et en réalité, peut-être qu'en s'arc-boutant sur ce choix-là, il a fait la démonstration inverse. En tout cas, jusqu'à présent, la comparaison avec l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne est dramatique pour l'Europe parce qu'ils en sont à un vacciné sur deux, alors que nous, on n'est même pas à 1/10.
C'était le fameux titre, un Brexit 1, Bruxelles 0. Ouais. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Soizic Kemeder, comment expliquer la popularité d'Emmanuel Macron alors qu'il a raté les masques, les tests et maintenant les vaccins? Question de Pierre, qui vit à Prague, vous voyez, en République tchèque, on nous suit là-bas.
Oui. Oui, alors c'est une éternelle question. Ce que disent les politologues, les spécialistes des sondages, c'est qu'en fait, c'est un soutien parce que c'est lui qui est aux commandes. Donc, il y a un réflexe de corps. Il a expliqué qu'on était en guerre, il y a un nom. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que les gens se mettent derrière ceux qui décident. Ils font bloc derrière le président de la République. Enfin, pour une partie, hein, il est populaire. Il est plus populaire que certains de ses homologues au même moment de son quinquennat. Au même moment, pardon, de son mandat. Après, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton qui annonce la fin des aides sociales, enfin des aides globalement aux entreprises. On sait bien que l'économie, elle est sous perfusion actuellement. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête tout? C'est ça la question. Est-ce que c'est de la popularité de réserve et puis tout d'un coup tout tombe? Ça, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, c'est la grande question, la fin du quoi qu'il en coûte, à quel moment ça va intervenir? Est-ce que ça intervient après l'été? Est-ce que ce sera plus tard? Est-ce que ce sera avant la présidentielle? Donc, c'est un peu une popularité en suspens, mais qui, pour l'instant, le protège un petit peu, c'est vrai.
Daniel Lévy-Brulle, Jean Castex a dit qu'on entrait dans une forme de troisième vague. Pire qu'en janvier, point d'interrogation. Est-elle pire qu'en janvier?
Non, d'abord, on a le vaccin. Et on a les vaccins même. Et ça, je pense que ça va quand même faire une grande différence. On le voit déjà, comme ça a déjà été mentionné sur nos chiffres, mais les hospitaliers le voient tous les jours. On voit déjà un impact sur les admissions pour les sujets âgés. Ça va continuer à augmenter cet impact au fur et à mesure qu'on va continuer à augmenter la couverture vaccinale. Donc ça va faire une grande différence. C'est vrai que le pari qui avait été fait de cette course de vitesse entre les variants et les vaccins, eh bien malheureusement, aujourd'hui, c'est plutôt 1-0 pour les variants. Mais très rapidement, je pense que la bataille va s'inverser et que ça sera les vaccins qui vont l'emporter. La limite, c'est la disponibilité des produits. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la France a été mauvaise là-dessus. Je crois qu'on se bat avec toutes nos armes pour essayer d'améliorer, et au niveau national comme au niveau européen, pour améliorer la disponibilité de ces produits. Il y a une forte demande, donc c'est une excellente nouvelle. Rappelez-vous ce que disaient les sondages à l'automne. Ce qu'on craignait, c'est que la population ne souhaite pas se vacciner. Aujourd'hui, c'est le contraire. La population attend les vaccins. On espère qu'ils vont arriver et je pense que ça va permettre à ce que l'évolution, peut-être pas dans les 2-3 semaines qui viennent, qui sont cruciales, je l'entends bien, mais si on veut réfléchir un petit peu plus en avant, l'évolution va être différente de ce qu'on a connu dans l'absence de vaccins en 2020.
Cécile Cornudet, quelles sont les conséquences économiques de ce nouveau confinement?
Ça a été évalué par Bercy qui parle d'1,2 milliard d'aides en plus par mois. De ce qui est dépensé aujourd'hui. Je crois qu'on est à 7 milliards par mois sur toutes les mesures aujourd'hui de restrictions, fermeture des restaurants, de tous ces secteurs-là. Là, ça rajoute un petit peu plus. Après, si ça ne dure pas trop longtemps, les projections économiques ne sont pas remodifiées jusqu'à présent. Mais c'est sûr qu'on est loin, loin, loin de sortir du quoi qu'il en coûte. Et Sozé Kemener en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui resteront jusqu'à la présidentielle de 2022. Tout ce qui est aide à l'embauche des jeunes, aide à l'apprentissage, année blanche pour les artistes.
Ce quinquennat.
Ah, ça, c'est sûr.
Pourquoi ne pas mettre en place des hôpitaux militaires, Gilbert Deray ?
Ça avait été fait l'année dernière, mais il ne faut pas non plus sous-estimer cette possibilité. C'est-à-dire les hôpitaux militaires, on va parler que de réanimation, hein, pour le reste, on va assurer. Les hôpitaux militaires, ça ne va pas apporter une aide qui va être considérable. Ce n'est pas quelques dizaines de lits supplémentaires en réanimation qui va changer la donne. Et donc, ça ne suffira pas.
Cherche-t-on à préserver les vacances d'été avant de replonger en automne comme l'an dernier? Daniel Lévy-Brulle, est-ce que vous avez cette impression que ça peut revenir en automne? Et puis l'an dernier, l'été, on avait passé des jours heureux. D'ailleurs, on nous avait expliqué avec le beau temps, il y a moins de virus.
Attention à ne pas surestimer l'impact de la saisonnalité et des températures sur le virus. D'ailleurs, on l'a vu cet été. Dès le mois de juillet, dès la mi-juillet, nous avions des chiffres qui montraient que nous allions dans le mur. On y allait tout doucement, certes, mais nous avions, vous connaissez maintenant, je crois tout le monde, ce fameux R, hein, le taux de reproduction, il était supérieur à 1 depuis la mi-juillet, donc le virus circulait comme on a eu l'effet...
Il est au-dessus de 1, là, le R, hein, évidemment.
Il est au-dessus de 1 aujourd'hui. Comme on avait l'effet bénéfique d'un confinement dur, eh bien, nous partions de très bas. Donc, on a pu tenir pendant de nombreuses semaines avant de revenir à une situation critique. Mais au fond, l'été n'a pas été aussi serein que le souvenir que nous en gardons. En tout cas, du point de vue de nous, épidémiologistes, il ne l'a pas été. Et je redis ce que j'ai dit pour terminer. Je pense que ce qui va changer la donne cet été par rapport à l'été qu'on a connu l'année dernière, c'est les vaccins. Ça, je pense que, certes, aujourd'hui, on n'en voit pas encore suffisamment l'impact parce que la couverture vaccinale est insuffisante. Mais sauf accident d'ici là en termes de livraison des vaccins, à l'été, on peut espérer qu'on pourra enfin respirer. Ça ne sera pas à partie gagnée. On n'aura pas vacciné toute la population française, mais je pense qu'on aura vacciné une très grande partie, si ce n'est la majorité des sujets les plus à risque. Et ça peut permettre de laisser circuler le virus beaucoup plus que ce qui était permis l'année dernière, parce que le fait que le virus circule un peu en soi-même n'est pas un problème, tant qu'il n'induit pas un nombre de formes graves qui débordent des capacités de prise en charge hospitalière.
Sozé Kemener, a-t-on le droit de se réunir dans la limite de 6 adultes à domicile en journée? Question de Terence. Alors à Paris, je précise, puisque c'est important. Et la sous-question, c'est d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas problématique que ces règles sont tellement subtiles et changeantes qu'on ne les connaît plus?
Oui, bien sûr. Alors, dans l'idée, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous avez le droit à votre vie privée et la police ne va pas venir chez vous compter le nombre de convives présents. Mais l'idée du gouvernement, évidemment, c'est de plutôt appeler les gens à se retrouver en extérieur, à distance, en respectant les gestes barrières. Et donc, c'est vrai que ces règles... Alors, il y a des choses qu'on retrouve, l'attestation, mais il y a aussi des repères qu'on perd à chaque fois qu'il y a des nouvelles mesures. Et puis, c'est vrai que c'est des mesures qui sont finalement très intrusives. C'est-à-dire qu'on a quand même une conférence de presse hier qui nous a pas dit d'ailleurs clairement quels étaient les commerces ouverts ou pas ouverts, mais le gouvernement va jusqu'à dire si les coiffeurs ou pas sont ouverts. C'est vrai qu'on va dans le gouvernement va dans un luxe de détails très intrusif. Et du coup, on a l'impression qu'il s'occupe d'absolument tout dans la vie privée des Français.
Gilbert Deray, troisième confinement, et je vois toujours des gens dans la rue qui ne portent pas de masque et qui se parlent à moins d'un mètre. Remarque de Nicolas à Paris, vous avez l'impression qu'il y a un relâchement et ça vous désole ?
C'est obligatoire, ça fait maintenant un an qu'on est dans la crise, plus d'un an, et ça fait 6 mois qu'on est soumis à des restrictions. Donc évidemment qu'il y a un relâchement qui était absolument inévitable, qu'il faut combattre, répéter les règles au fur et à mesure, c'est-à-dire que la distance est importante, le masque...
Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de mesures suffisantes pour faucher cette troisième vague qui va vous déborder.
Ah, mais c'est très clair. Ah oui, c'est très clair. Alors, ça lui aurait été fait en décembre dernier ou en janvier dernier. Il fallait casser cette deuxième vague. On est dans une situation qui est compliquée. On va s'en sortir, je le crois aussi, grâce au vaccin. Mais c'était avant qu'il fallait casser tout ça.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio, comme on dit, sur toutes les plateformes. Je vais les dire, Deezer, Apple Podcast, Castbox et Spotify. Merci de votre fidélité. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.